l'invincibilité que j'avais, je me dis, ben, je suis quand même très fragile. Parce que malgré une volonté de se remettre assez vite, etc., ben, le corps, des fois, ne suit plus.
Une maladie, un accident, parfois même une naissance. Et soudainement, une parenthèse plus ou moins longue s'ouvre dans nos vies. C'est dans cet espace, entre un avant et un après, que ce podcast vous emmène. Nous tendons le micro à celles et ceux qui l'ont traversé, ainsi qu'aux spécialistes qui les ont accompagnés. Une fois par mois, entre parenthèses, vous plonge au cœur d'une thématique santé. C'est un podcast proposé par Hirst London, les cliniques Boissard et Cécile, et c'est moi, Laetitia Vider, journaliste, qui vous accompagne dans votre écoute. Une réalisation à Kuoedo Studio. Certaines maladies cardiovasculaires s'installent sans faire de bruit. L'hypertension en fait partie. En Suisse, elle concerne environ un adulte sur cinq et jusqu'à une personne sur deux après 65 ans. C'est aujourd'hui le diagnostic le plus fréquent en cabinet médical. Mais elle reste souvent longtemps invisible alors qu'elle se cache derrière de nombreuses pathologies cardiaques. Cyril va l'apprendre sur le tard, lui qui a grandi au Mozambique avec une enfance marquée par le risque de maladies tropicales et infectieuses, ce qui a forgé chez lui une certitude durable, celle d'un corps hyper solide.
Ma vie était très paisible, très, enfin, comme tout le monde, je pense. Vraiment cette impression d'être invincible, de ne pas être trop fragile. Et puis comme j'avais un papa un médecin, une maman infirmière à la maison, ils avaient tout ce qu'il fallait pour un maux de tête, quelque chose comme ça. Et puis les enfants de cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai qu'on nous disait souvent, mais ça va passer. Et puis voilà. Mais on était très drillés, si j'ose dire, sur le fait qu'il fallait, par exemple, avoir des chaussures et toutes les maladies tropicales, ne pas aller dans les flaques d'eau, surtout pas se baigner quand il y avait des inondations, des choses de ce type-là. Alors là, on était très rigoureux. Voilà, pour dire que je me sentais vraiment pas du tout quelqu'un de malade ou de fragile, plutôt quelqu'un de bien costaud, de invincible. Vraiment, c'est ça le terme, quoi, invincible. Je me souviens encore le 26 décembre, il faisait grand beau et puis j'ai décidé de commencer à tailler les arbres. Heureusement, j'étais sur un saule qui est relativement bas, donc je n'étais pas en hauteur avec une scie manuelle. Et puis j'ai commencé à scier, à débiter le bois qui était coupé et tout d'un coup, une sorte d'absence comme ça. J'entendais comme quand il y a une musique avec les chaînes stéréo de l'époque, on pouvait augmenter le son ou diminuer. Et j'avais cette espèce d'impression d'entendre des voix tout d'un coup très fort. Puis, je me suis arrêté de travailler, mais j'avais vraiment tout débité le bois, mis pour la déchetterie, tout préparé comme il faut. Et puis je suis rentré à la maison et là, heureusement que ma femme, qui est aussi dans le corps médical, et ma fille aussi, ont vu mon état et ont dit « mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on aille directement à l'hôpital ». J'étais très confus dans ce que je disais, puis semble-t-il pâle, très perdu, confus, perdu. C'est surtout ma fille qui a dit « non mais papa, il faut qu'on descende à l'hôpital ». Et puis, dans la voiture, j'étais aussi... tout d'un coup, je leur ai dit « mais est-ce que je suis habillé ?» Enfin, voilà, vraiment très confus, très, très confus. Mais j'ai été hospitalisé, évidemment, des examens à n'en plus finir. Et puis, c'est là que tout d'un coup, ils ont réalisé qu'il y avait eu un AIT.
Un AIT, c'est un accident ischémique transitoire. Le docteur Didier Loca, spécialiste en cardiologie à la clinique Cécile.
Ça, c'est un petit mot qui est un peu compliqué, mais pour dire quelque chose de relativement simple. C'est un peu une tempête, hein. C'est une pause brutale, temporaire de la circulation dans le cerveau. Et puis, ces symptômes, souvent, sont assez clairs, parce que les gens sont peu bien, on voit une faiblesse, une paralysie, trouble de la parole, perte de vision, confusion, parfois désorientation. Et puis, le patient perçoit souvent des sensations inhabituelles. Et ces symptômes, justement, généralement disparaissent en moins d'une heure, d'où le côté transitoire. Mais c'est finalement aussi très très important de relever que ces symptômes, donc ces signes, peuvent aussi quand même être parfois non seulement paniquants, mais c'est pas juste finalement un épilogue, c'est parfois aussi une bande-annonce de l'accident vasculaire cérébral qui lui nous amène en effet des dégâts à plus long terme. Il est très important d'avoir une réaction rapide, ça c'est vraiment déterminant, c'est de reconnaître les signes et puis d'appeler immédiatement les secours pour avoir un diagnostic qui soit rapide. Donc de ce fait, c'est très très important que si des personnes observent ou voient des signes inhabituels chez leurs proches, c'est d'agir. De la même manière dont on dit en cardiologie que le temps c'est du muscle quand on fait un infarctus, ça veut dire qu'il faut se dépêcher d'agir, de réouvrir ces tuyaux qui sont fermés, c'est la même chose pour le cerveau. Donc le but, c'est finalement de gagner du temps pour que le cerveau soit irrigué le plus rapidement possible.
Les choses se sont enchaînées et puis une découverte que la valve aortique était complètement, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais rongée. Et du coup, ben voilà, il fallait prévoir une opération et moi j'étais tout à fait prêt. Donc ça s'est fait très rapidement. En octobre de l'année suivante, j'ai été opéré.
Après un événement neurologique, la recherche des causes est systématique. Cerveau, vaisseau, cœur, tout est exploré pour identifier l'origine et éviter une récidive.
Le bilan après un événement de ce type, on doit mener l'enquête. On va faire une imagerie cérébrale, on va regarder s'il y a des dégâts, pas de dégâts, comment le cerveau se comporte. Puis après, on va essayer de trouver l'origine, la cause. Ça, c'est très important pour éviter la récidive. Et dans ce contexte, alors on va également faire une imagerie des vaisseaux du cou, on va monitorer le cœur a un rythme. Et en fonction du rythme du cœur, ben il peut y avoir en effet des petits caillots qui se forment. Et puis on va faire également d'autres examens aussi, des bilans sanguins plus spécifiques, le but étant justement de prévenir un nouvel événement. Notre cœur, qui est une machine fantastique, ben cette pompe, elle va compenser longtemps, elle va lutter. Les valves en soi, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est des robinets qui s'ouvrent, qui se ferment. Puis c'est comme chez nous à la maison. On peut avoir tout d'un coup le joint qui commence à moins bien fonctionner. Le robinet aura de la peine à s'ouvrir ou de la peine à se fermer. Ça va dépendre un peu du mécanisme. Et le cœur, le muscle du cœur, qui est le Graal, il va lutter pour de plus en plus essayer de pouvoir compenser la maladie de cette valve. Donc c'est ce qui explique un peu l'absence de symptômes souvent au début d'une maladie de ce type.
Le diagnostic est posé et pour Cyril, c'est le moment de passer au bloc.
Je crois que je n'étais pas tout à fait conscient de ce que ça signifiait réellement parce que j'étais vraiment avec une très très grande confiance. Pour moi, c'était une intervention comme une autre. Je n'avais pas vraiment réalisé qu'on ouvrait le thorax, des choses de ce type-là. Quand je suis entré dans la salle d'opération, il y a une espèce de sas d'entrée et on nous pose des questions pour savoir notre identité et des choses comme ça. Et tout le monde était assez étonné de voir mon calme, mais je crois que je n'avais pas conscience des choses. Maintenant, je ne sais pas si c'était à refaire, si j'aurais eu ce calme-là. Je ne sais pas. Oui.
Globalement, quand on doit réparer ou remplacer une valve, il y a différentes techniques, hein, opératoires chirurgicales, et ça c'est essentiellement la chirurgie cardiaque standard, ça veut dire qu'on doit vraiment accéder au cœur. On peut accéder au cœur soit en ouvrant la poitrine, soit en passant par le côté de la poitrine. Chaque technique doit être adaptée au patient, à la situation du patient, à la situation de sa valve. Ça veut dire qu'on doit avoir aussi des techniques d'imagerie qui nous permettent de définir exactement quelle va être la meilleure des techniques. Puis chez des gens beaucoup plus âgés, où là on a des approches, surtout pour la valve aortique en l'occurrence, là on a des remplacements maintenant qui se font avec des cathéters qu'on peut passer au pli de laine et qui permettent de remplacer la valve de manière plus douce. Mais tout ça, c'est des choses qui doivent être bien entendu mises dans le contexte, évaluées en équipe, ça en équipe cœur, pour définir la meilleure des approches.
Cyril, lui, a subi une intervention à cœur ouvert, comme on dit.
Je n'ai pas l'impression d'avoir eu quelque chose de terriblement douloureux, mais en inconfort. Et puis justement, alors là, tout d'un coup, l'invincibilité que j'avais, je me dis, ben, je suis quand même très fragile. Parce que malgré une volonté de se remettre assez vite, etc., ben, le corps, des fois, ne suit plus. Des choses toutes bêtes, mais quand on veut s'asseoir dans le lit, ben, c'est compliqué. Et voilà, il faut avoir l'aide de certaines personnes. Donc, tout d'un coup, cette prise de conscience que je ne suis pas si invincible que ça.
La rééducation est une phase très importante parce que, bien entendu, après une opération du cœur, il faut imaginer que cet organe, qui est extrêmement noble, eh bien, il a été d'une certaine manière arrêté, d'une manière artificielle, puisqu'on fait de la circulation extracorporelle quand il s'agit d'une opération à cœur ouvert, pour prendre cet exemple. Et donc après, il faut en effet qu'il y ait une reprise de l'activité cardiaque, il faut entourer le patient sous le plan aussi de son activité physique, serait-ce que pour monter un escalier, pour bouger, la fatigue aussi, le corps demande du temps, bien entendu, pour récupérer, en termes de cicatrisation, en termes aussi de mobilisation. Et puis cette phase, elle se fait quelques jours, bien entendu, à l'hôpital. Et puis après, elle peut se faire en stationnaire, dans des cliniques de rééducation, ou en ambulatoire, en fonction du patient, de son évolution, de son âge, permettant un retour à son activité, s'il est encore actif, sur le plan professionnel. Après, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement une reconstruction de la personne sur le plan physique, mais aussi intérieur. Parce qu'on doit commencer aussi à apprendre à s'écouter et comprendre. Donc c'est pas une... On apprend qu'on ne doit pas vivre dans la faiblesse de ce qu'on a vécu, mais on doit surtout retrouver une nouvelle forme de force pour se dire que voilà, on va bien et puis on reprend confiance en soi.
Ça, c'était vraiment quelque chose de très, très positif parce que seul, je pense qu'on se remet difficilement d'une opération comme ça. Là, je me suis senti aussi très bien entouré, très bien sécurisé. Je savais que je pouvais, dans des tests, par exemple, on faisait aussi du vélo ou des choses de ce type-là, et puis les fréquences cardiaques, tout ça était bien mesuré, et je me sentais tout à fait en sécurité, donc je savais jusqu'où je pouvais aller, et petit à petit, en 3 semaines, on reprend confiance, même plus vite que 3 semaines, et on reprend des forces. Seul, je pense que c'est pas possible. Moi, j'aurais pas pu. Toute l'équipe sur place, les cours théoriques, comprendre un petit peu le fonctionnement de ce cœur, savoir ce qu'il faut changer, et une prise de conscience que le stress, par exemple, peut être un des facteurs qui détériorent la santé du cœur. Ça, j'avais absolument pas conscience et je me sentais absolument pas stressé particulièrement. Les patients qui sont là, chacun partage son expérience et tout d'un coup, oui, j'ai pris conscience que le stress était un des facteurs de détérioration du cœur. Oui, comme je suis enseignant. Voilà, j'ai pu après modifier un petit peu ma façon de faire et puis relativiser les choses, etc., etc. Mais ça, c'est tout un travail personnel à faire.
Il y a le bon stress, le mauvais stress. Alors, on peut dire que le bon stress, c'est quand on a réussi quelque chose. Le mauvais, c'était l'angoisse qu'on avait avant. Hein. Et puis, concrètement, le stress va augmenter la tension. On est en état de vigilance. Hein. Ça va augmenter aussi l'aspect inflammatoire. Ça va accélérer le rythme du cœur. Puis, bien entendu, s'il est prolongé au long cours, ben, il va favoriser les maladies cardiaques et vasculaires. Donc, c'est vraiment important. Donc, finalement, il va un peu user si on a trop de stress. C'est un petit peu comme si on gardait un peu le pied sur l'accélérateur alors qu'on est à l'arrêt. Prévention, c'est clé. On est malheureusement toujours en prévention, enfin, très fréquemment en prévention secondaire, alors que la prévention primaire, elle est vraiment nécessaire. Parce qu'on oublie toujours que notre vieillissement, ben, il commence dès l'enfance. Dès qu'on est né, on commence à vieillir. Donc prévenir en termes de mode de vie, d'alimentation, de mouvement, de bien-être, sur le plan général, c'est vraiment clé. Et on sait aussi que quand on a eu un événement, alors là on est en prévention secondaire, si on fait les choses correctement, ben, on arrive à limiter le risque de rechute de manière très drastique. C'est très important de surveiller sa tension, enfin sa pression artérielle, parce que c'est vrai qu'elle est toujours silencieuse, soit avant un événement ou après. Hein. Et puis en même temps, en apprenant à faire des automesures, en améliorant son hygiène de vie, on va pouvoir à ce moment-là éviter le nouvel événement. Après, ce qui est aussi clé, c'est que comme elle n'est pas visible directement, ou plutôt par senti, parce qu'en termes de visibilité, oui, on peut la mesurer, on peut la traiter, on peut agir et adapter aussi les traitements. Et c'est là aussi où c'est très important d'avoir des mesures, d'effectuer des mesures régulières à domicile et puis d'intégrer tout ça avec les soignants qui s'occupent du patient. La plupart du temps, une médication est nécessaire. Il y a différents types de traitements médicaux, mais ça n'enlève pas les règles d'hygiène qui font que le fait de bouger, de perdre du poids, de ne pas fumer, d'éviter la consommation d'alcool de manière excessive, et puis de surveiller un peu son mode de vie, le sommeil aussi très important, sont clés. Donc c'est un tout.
Avec son traitement, Cyril passe par une phase d'ajustement.
Il y a une fragilité de l'artère qui sort du cœur. Et à ce niveau-là, ben, il faut évidemment que la pression ne soit pas trop haute. Je prends des médicaments, c'est des médicaments à prendre à vie. Et puis c'est une question de dosage. C'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu des vertiges, des moucherons dans la vision, des choses de ce type-là, des fatigues. Je sais que je suis beaucoup plus frileux qu'avant. Je porte des pulls même en été. Il y a quelque chose qui est altéré dans mon corps, justement. Je reviens à cette invincibilité. Je me dis, mais quand même, il fait une petite brise le soir, je mets en pull. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça ne m'énerve pas, mais ça m'étonne.
Il n'existe aucun traitement médical sans effet secondaire. Donc en pratique, c'est important justement de reconnaître les signes des effets secondaires et puis d'être sûr qu'il n'y a pas de train qui se croise, il y a peut-être le vieillissement, il y a l'âge et peut-être d'autres problèmes médicaux, donc des symptômes comme la fatigue par exemple, des vertiges, d'être un peu plus sensible au froid ou autre, il y a beaucoup beaucoup d'exemples. Ça peut être des effets secondaires des médicaments, mais ça peut être aussi lié à l'âge ou à un nouveau problème qui se greffe. Donc c'est là où c'est important d'en parler avec son médecin. Pour ajuster le traitement, puis on a des outils de mesure aussi qui permettent de pouvoir, le cas échéant si c'est nécessaire, mesurer la pression sur plusieurs heures, voire même encore plus fréquemment.
Surveiller sa tension demande une implication régulière, un suivi qui s'est un peu érodé avec le temps.
J'ai un petit peu relâché. Parce que je voyais aussi dans mon entourage que souvent ça crée du stress. Honnêtement, ça fait quelques mois que je ne l'apprends plus, mais il faut le faire.
Donc le fait de faire des mesures de sa tension, il ne faut pas que ce soit un stress, parce que c'est juste une manière de se dire, voilà, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma manière de vérifier les choses. Je pense que c'est très important d'effectuer des mesures tensionnelles par soi-même, si on peut le faire déjà, et puis de prendre sa tension artérielle quand on est jeune, chez son généraliste lors des contrôles. C'est important, et si en effet il commence à y avoir des valeurs qui commencent à s'élever, d'en prendre acte et puis de les contrôler plus fréquemment. L'hypertension, il ne faut pas oublier que ça reste un des premiers facteurs de risque cardiovasculaire qu'on peut modifier par les différents principes qu'on a évoqués avant. Et puis ça représente quand même plus d'un milliard de patients dans le monde, hein. Donc c'est très important. Et puis il y a plein de personnes qui sont sous-diagnostiquées.
Je me sens extrêmement bien entouré. Il y a des contrôles annuels. J'ai une confiance totale. Donc je n'ai pas d'anxiété. Mais je sens que le corps, j'ai 65 ans maintenant, le corps s'altère quand même, perd un petit peu de résistance, et puis ça m'inquiète pas parce que c'est dans l'ordre des choses, mais ça m'attriste peut-être un petit peu parce que je me dis, c'est un peu dommage, voilà.
Lorsqu'on a eu un événement cardiaque ou cérébral, enfin globalement, lorsqu'on a eu un problème de santé, de manière plus générale, on a l'impression de ne plus être forcément invincible. Il faut essayer de transformer ses peurs et ses craintes en force. Donc ça veut dire que globalement, avant l'événement, on ne savait pas, donc on ne craignait pas. Puis maintenant, on se dit, ben voilà, maintenant je sais, donc je vais prendre soin de moi. Et le cœur, c'est vrai que comme on ne le voit pas, comme il travaille tout le temps, on se dit, je suis fatigué, je vais me reposer, on va dormir. Ok, tout le monde dort, c'est important. Mais le cœur, lui, ne dort pas. Il se repose pas vraiment, il travaille. Donc c'est un équilibre important, je dirais après une intervention ou après un événement de santé, c'est de comprendre sa maladie. Mais l'objectif finalement, c'est pas de vivre dans l'inquiétude, hein. C'est surtout d'être vigilant, mais de rester serein.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur l'hypertension et les AIT dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous.